L'épopée millénaire, le podcast des amoureux de Caen.
Caen et l'Angleterre partagent un passé commun tissé au fil des siècles. Un lien ancien, solide, mais qui n'a pas toujours été synonyme de paix. On débute cette histoire avec l'époque médiévale, où le 14 et 15e siècle notamment sont marqués par cette présence britannique, avec deux sièges de la ville de Caen, l'un en 1346, l'autre en 1417. Une époque riche et complexe que l'on vous propose d'explorer avec Camille Silona, doctorante en histoire médiévale.
Le contexte général, c'est celui de la guerre de Cent Ans, qui est un conflit qui a des racines multiples. On peut mentionner une crise économique, démographique, sociale qui traverse toute l'Europe le long du XIVe siècle, mais qui a pour déclenchement en particulier une crise dynastique, un conflit successoral, à la suite de l'extinction de la lignée directe de la dynastie des Capétiens, qui est la dynastie régnante. Et donc officiellement, le conflit s'ouvre à la fin des années 1330 par la revendication du trône de France par le roi d'Angleterre, Édouard III.
L'un des premiers faits significatifs de l'attaque anglaise sur le territoire français lors de la guerre de Cent Ans, c'est le siège de 1346, mais ce n'est pas forcément l'épisode le plus marquant de cette période.
En réalité, le siège de 1346, c'est un espèce de siège éclair qui dure deux jours, mais qui est resté dans les annales comme quelque chose de très brutal, où effectivement la ville a été pillée, incendiée, il y a eu beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts, etc. Donc là, on a effectivement une mémoire beaucoup plus sanglante de cette opération-là. C'est vraiment ce qu'on appelle des chevauchées qui s'inscrivent dans une stratégie de guerre psychologique des Anglais contre le roi de France, alors que le siège de 1417 va se conclure par une occupation de plus de 30 ans, 33 ans, anglaise à Caen. Donc c'est vraiment une volonté d'Henri V de Lancastre, le roi anglais, de s'installer durablement en Normandie pour faire de la Normandie un siège de pouvoir, une assise qui va lui permettre pour le coup de revendiquer plus directement, en tout cas d'avoir les moyens de revendiquer directement la couronne vis-à-vis de son rival français.
On peut imaginer que ces 30 ans d'occupation se sont faits dans la douleur, mais selon Camille Silona, cette idée n'est pas tout à fait juste.
En fait, on a tendance à projeter un sentiment un peu malveillant envers l'occupant anglais en se disant c'est l'ennemi, etc. En réalité, il faut vraiment combattre cet imaginaire collectif parce que l'occupation anglaise de 1417-1450 a relativement été bien vécu par les Canets. En fait, la stratégie du roi d'Angleterre, c'est vraiment de s'installer durablement en Normandie, et donc il lui faut des soutiens. Et il faut que cette population urbaine, à Caen, à Rouen, mais partout ailleurs, soit un soutien. Il doit obtenir une garantie d'aide de la part des habitants des villes. Et donc, il va mener une politique très conciliatrice, confirmer des privilèges, se lancer dans des grands chantiers de fortification, donc défendre la ville, ce qui envoie en parallèle le message au roi de France que lui n'avait pas su le faire, donc il y a aussi toute cette dimension-là. Et donc les Canets sont, en tout cas dans un premier temps, très favorables en réalité au gouvernement anglais. Il y a aussi toute la dimension économique qu'on pourrait évoquer, puisque Caen est de toute façon très bien relié à l'Angleterre depuis longtemps, et donc le fait d'avoir un gouvernement anglais, là aussi, facilite les débouchés commerciaux vers l'Angleterre. Donc, dans une large mesure, en tout cas dans un premier temps, les Canets sont très largement favorables à l'occupation anglaise. Alors, je dis pas qu'il y a aucune voix qui s'est élevée contre l'occupant, mais il y a quand même une large partie de la population qui, en tout cas, comprend son intérêt au gouvernement anglais.
Et ces intérêts, la ville de Caen les a gardés jusqu'à aujourd'hui.
On pourrait mentionner la fondation de l'université, justement, fondée en 1432 par le gouvernement anglais, qui, à titre très significatif, a choisi Caen et pas Rouen pour fonder l'université, parce que Caen était bien plus calme, supportait bien mieux l'occupation anglaise. En 1432, l'année où l'université est fondée à Caen, à Rouen, on se rebelle. Il y a une conjuration qui finit par l'occupation du château de Rouen par Équerville. Et donc du coup, on voit bien que Caen est plus calme, et plus, il faut dire aussi qu'elle est beaucoup moins populeuse, donc elle est aussi plus facile à policer. Mais de ce point de vue-là, on a l'impression qu'effectivement, elle est plus facile à policer, que les choses se passent de façon un petit peu plus apaisée à Caen.
Alors, si cette occupation de 30 ans était si apaisée, quel a été l'élément qui y a mis fin ?
Et qu'est-ce qui l'arrête? C'est justement la remontée de Charles VII qui reconquiert la Normandie. Après les épisodes très très connus et très fantasmés aussi de Jeanne d'Arc. Et donc en 1449, Charles VII reprend Rouen. Et puis dans la foulée, reprendra Caen aussi en 1450. Et donc là, c'est un mouvement global. Les dynamiques s'inversent et sont plus favorables au roi de France qui parvient à reconquérir la Normandie. Donc là encore, c'est dans un contexte un peu plus général du conflit. Qu'en 1449-50, le roi de France parvient à recouvrir sa Normandie.
Cette période passée sous le joug britannique a été déterminante dans la construction de la ville de Caen. Pourtant, l'historienne Camille Silona a parfois l'impression qu'elle reste méconnue du grand public.
Ou alors qu'elle est connue pour des périodes très, des espèces de hauts faits fantasmés comme l'épopée de Jeanne d'Arc qui en réalité est très éphémère, donc ce conflit qui est extrêmement long, qui est aussi très fantasmé, donc qui a été très mal compris. Et j'ai l'impression que le grand public peut retenir ces grandes figures comme Guillaume le Conquérant, bien avant par ailleurs, Jeanne d'Arc, mais que ces périodes d'occupation sont peut-être un petit peu moins connues. Là, avec notre réflexion de 21e siècle, on aurait tendance à croire un petit peu d'office qu'il y a eu une réaction de rejet forte, voire même de résistance à l'occupant anglais. Mais ça, c'est vraiment des raisonnements du 21e siècle qui sont plaqués sur des gens du 14e siècle. Là, pour le coup, ce serait mécomprendre les choses. Donc, ce qui me paraît peut-être le plus important, c'est cet aspect de politique conciliatrice des Anglais qui a très très bien fonctionné, en tout cas dans les premiers temps. On pourrait rajouter qu'à Rouen, par exemple, ce sont les Rouennais qui se sont ouverts volontairement aux Anglais, considérant que le roi de France les avait mal protégés et que donc ils auraient plus intérêt à rentrer dans le giron anglais. Et donc la communauté de Caen, comme la communauté de Rouen, a ses intérêts propres, qui sont en fait finalement relativement loin du conflit dynastique qui oppose les deux souverains. Et donc, s'il y a un des deux souverains qui offre des garanties majeures sur, je sais pas, le commerce, la protection de leurs biens propres, etc., bien finalement, c'est ça qui importe et c'est vers ce souverain-là qu'on va se diriger en tant que communauté urbaine, quoi.
S'il est difficile pour les historiens d'analyser l'impact de cette période médiévale sur les relations franco-anglaises, ce qui est sûr, c'est qu'elles se sont construites tout au long de l'histoire. Le doctorant Guillaume Hiverneau s'intéresse au lien devenu cordial entre les Normands et les Britanniques, cimenté dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, puis à la Seconde Guerre mondiale pendant la Libération.
Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats français ont combattu aux côtés de soldats britanniques. Et en Normandie, vous aviez des camps de convalescence et des hôpitaux pour l'armée britannique. Donc en fait, vous avez des soldats britanniques qui étaient en convalescence en Normandie jusque dans les années 1919-1920. Et alors à Caen, par exemple, vous aviez des soldats que vous pouviez retrouver en permission dans la ville de Caen. Cette relation, elle s'est construite comme ça. En 1939, quand la guerre éclate, la France est aux côtés du Royaume-Uni. Et les troupes britanniques transitent par Caen pour remonter vers le front dans le nord de la France. Et donc, vous avez un passage important de troupes britanniques en Normandie. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avant la libération, les Normands s'attendent à voir des troupes débarquer. Et pour eux, le seul libérateur possible, c'est le Royaume-Uni. On ne pense pas aux États-Unis, on ne pense pas au Canada à ce moment-là. On pense au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que c'est le Royaume-Uni qui tient tête face à Hitler, le Royaume-Uni n'a pas été envahi comme Hitler le prévoyait. Et comme c'est le voisin aussi le plus proche, les Françaises et les Français attendent finalement cette libération venir d'outre-Manche, venir du Royaume-Uni.
Depuis la libération par les troupes britanniques aux côtés des Américains et des Canadiens, les relations entre les Normands et les Anglais sont restées chaleureuses. Et malgré le Brexit, nos amis d'outre-Manche raffolent de notre Normandie et n'hésitent pas à venir à Caen sur les traces de cette histoire conjointe. C'est la fin de cet épisode de l'épopée millénaire. Pour le prochain rendez-vous, on reviendra sur un fait marquant de l'histoire cannaise évoqué plus tôt dans ce podcast, la construction de l'Union. Université.
Mythes, histoires et légendes, Caen, l'épopée millénaire, un podcast by Tendance Ouest.